radio de la paix. Il est 12h. Le bulletin de midi, Jean-Claude Mabéa.
À Dakar et à Abidjan, il est 12h, c'est la même heure en temps universel. Bonjour et bienvenue à tous à la une de ce bulletin de 12h. Environnement, la contribution des banques centrales dans les stratégies de lutte contre les changements climatiques est la question essentielle qui a fait l'objet d'une conférence internationale organisée il y a quelques jours à Dakar, au Sénégal, par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Lutte contre la pauvreté, le gouvernement ivoirien a distribué 9 milliards de francs CFA à 22 000 ménages vulnérables dans le cadre du projet filet socio-productif à Bouaké en 3 ans. Actualité au Sénégal, les populations sont appelées à se mobiliser ce vendredi contre le report de la présidentielle. Et puis Junior Cardin sera en ligne avec Dr Landry Amoussou, l'invité de la rédaction pour refermer ce journal. Enseignant-chercheur à l'université Péléforo Gonkoulibaly de Korogo et spécialiste de droit administratif, il reviendra sur les tests régissant les rapports entre les maires et les gouverneurs de district. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous rejoindre pour l'actualité de ce jour. On prend la direction de Dakar au Sénégal où s'est tenue les 6 et 7 février 2024 une conférence internationale organisée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. La contribution des banques centrales dans les stratégies de lutte contre les changements climatiques a fait l'objet de ces assises. Jean-Claude Cassé-Brou, le gouverneur de l'institution bancaire, revient ici sur les conclusions de cette rencontre. De 2 jours.
Les pays africains polluent peu, moins de 5% des émissions de gaz à effet de serre, mais ont subi des chocs très élevés. Inondations, sécheresses, impact sur la santé avec les maladies qui se développent, etc. Et bien sûr, tout ça a un coût économique important. Et toutes les études montrent que l'Afrique, ça peut impacter 15% de notre produit intérieur. Ça veut dire que ce n'est plus un phénomène marginal, c'est un phénomène systémique. C'est-à-dire que ça peut impacter tout le secteur financier. Et dès que le secteur financier est impacté, les banques centrales sont interpellées. Parce que les banques centrales ont pour mission de stabiliser l'inflation, stabiliser le secteur financier pour assurer une croissance économique forte dans le pays. Donc la question c'était de voir au fond qu'est-ce que les banques centrales peuvent faire. Et donc on a pensé qu'il était bon de nous retrouver pour échanger et voir qu'est-ce qu'on fait. On a donc vu qu'il était important de mettre en place des mesures incitatives pour que le secteur financier dans son ensemble s'oriente vers le financement d'activités qu'on appelle les activités vertes. On a vu également qu'il y avait beaucoup de possibilités de financement au niveau des banques de développement à travers les obligations vertes, par exemple, les mécanismes de financement alternatifs, le financement mixte. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités. Et donc, il faut effectivement soutenir et accompagner pour que le secteur financier soit mieux à même de contribuer à limiter l'impact des changements climatiques.
Jean-Claude Cassé-Brou, le gouverneur de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'instant sur Radio de la Paix. Économie cacaoyère. Le vendredi 2 février dernier, la tonne de cacao pour livraison en mars 2024 a atteint 5 017 $ US, soit plus de 3 millions de francs CFA contre 4 672 $ américains, soit plus de 2 millions de francs CFA une semaine plus tôt à New York, aux États-Unis. Il s'agit de la première fois que l'or brun franchit le cap des 5 000 $US depuis 1977. Pour le professeur Praoyao Séraphin, économiste et enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, cette hausse record du prix du cacao au plan mondial est liée à plusieurs facteurs, dont fondamentalement la baisse profonde de l'offre de fèves de cacao par les principaux pays producteurs que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nous l'écoutons.
Fondamentalement, la première cause est due à une baisse profonde de l'offre de cacao. Vous savez que les premiers producteurs en Afrique sont respectivement la Côte d'Ivoire, notre pays, avec 40% de l'offre, suivi du Ghana, 20%, et du Nigeria. Et donc, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, nous avons 70% de l'offre mondiale. Or, vous savez bien qu'il y a eu ces temps-ci une pluviométrie qui a déréglé la production cacaoyère. À cela, il faut ajouter aussi le problème de la diversification des revenus des planteurs. Et il faut ajouter aussi le fameux El Niño, c'est un réchauffement des eaux du Pacifique Sud Et donc ceux-là qui sont dans le Pacifique Sud de l'autre côté, qui fournissent aussi le cacao, ont vu effectivement cette maladie jouer qualitativement et quantitativement sur la production. Donc du coup, l'offre a baissé. Le déficit se situe aujourd'hui à peu près, selon les chiffres de l'Organisation mondiale du cacao, hein, à 116 000 tonnes. Hein. Et à cela encore, pour ajouter pour finir, la spéculation par crainte effectivement de pouvoir fournir les feuilles de cacao aux majors.
Est-ce que l'on peut s'attendre à une hausse des prix aux producteurs?
Non, je ne pense pas, parce que vous savez, depuis un certain nombre d'années, après la malencontreuse, pour ne pas dire malheureuse, expérience, n'est-ce pas, de la libéralisation de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire, nous sommes revenus dans un système mixte où il y a une part de flexibilité exigée par la libéralisation et une part de fixité que nous avons empruntée effectivement de la caisse de stabilisation de feu au Faux-Boyer.
Le professeur Praoyao Séraphin, économiste et enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, était interrogé par Aoussi Poutin. Intéressons-nous à présent à la commémoration de la Journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines et au lancement d'un projet de lutte contre le fléau dans le Bafing. L'imam Cissé Guigiba, le président du conseil d'administration de la Fondation Guigui, a animé mardi dernier une conférence de presse à la faveur de cette journée. En Côte d'Ivoire, cette tendance de recul de la prévalence nationale est aussi observée et on écoute à cet effet les précisions du président du conseil d'administration de la Fondation Guigui, l'imam Cissé Guigiba.
Vous savez que la lutte contre un fléau, n'est-ce pas, ne se gagne pas en un jour. Et particulièrement, notre arme, c'est la sensibilisation, la conscientisation. Et montrer tout ce que ça cause comme effet néfaste à court terme, moyen terme et long terme. La pratique de l'excision est en recul. Bien sûr, il reste encore des poches de résistance dans les zones rurales. Ça se comprend, mais aujourd'hui, avec les moyens de communication, les radios, les télévisions et les réseaux sociaux, toute la population est en phase d'être, en tout cas, bien informée.
Imam, 36,4%, on passe à 20% en 2024. C'est un bon boulot, Imam.
Tout à fait. Enfin, quand on n'est pas convaincu, on ne peut pas convaincre. Nous savons que c'est une cause noble que nous défendons. Sur certaines de nos radios, nous diffusons nos messages en 25-26 langues pour que toute la sensibilité linguistique des peuples soit touchée et que, en cela, nous puissions très rapidement avancer. Et c'est vrai, votre constat est juste. De 36 à 20, c'est pas 20 n'est pas notre objectif. C'est un acquis et au-delà duquel il faut aller pour zéro tolérance.
Nous écoutions à l'instant le président du conseil d'administration de la Fondation Guigui, l'imam Cissé Guigiba, dans des propos recueillis par Gapiena Ouattara. Nous vous le disions en titre, 22 000 ménages vulnérables de la région du Bekè ont bénéficié pendant 3 ans d'allocations trimestrielles de 36 000 francs CFA. Cette action financée par le gouvernement en collaboration avec le groupe de la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre de la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire et aussi contribuer à faire sortir les couches vulnérables de la précarité. Le reportage de Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Bekè.
Soucieux de l'amélioration des conditions de vie des populations, le gouvernement ivoirien en collaboration avec la Banque mondiale a initié depuis quelques années un programme dénommé Filet socio-productif qui permet d'accorder une allocation trimestrielle de 36 000 francs aux ménages vulnérables. Dans la région de Gbeke, ce sont plus de 9 milliards de francs alloués en 3 ans aux bénéficiaires. Kone Aboubakar, point focal des filets socio-productifs à la direction régionale de la protection sociale de Bouaké.
La région de Bouaké, nous sommes à 8678 ménages bénéficiaires en milieu rural et 13427 ménages bénéficiaires en milieu urbain. Lorsque nous faisons le calcul, 9 549 360 000 francs CFA qui ont été versés.
En outre, une subvention complémentaire d'un peu plus d'un milliard de francs a été mise à la disposition des ménages bénéficiaires.
Pour les mesures d'inclusion économique, 1 591 millions 1 560 000 francs CFA versés. Plus de 70% des ménages qui ont bénéficié de ce programme sont aujourd'hui autonomes, sont aujourd'hui résilients.
L'initiative des filets sociaux productifs a été saluée par les bénéficiaires à l'image de cette dame.
On demande toujours au gouvernement de regarder ceux qui sont toujours pauvres.
Au titre de cette année 2024, 6 730 ménages sont éligibles au programme filet sociaux productifs dans la région de Bouaké. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix.
De Bouaké, on se rend à Man pour évoquer les enjeux de la lutte contre les feux de brousse pour la sécurité alimentaire. C'était le thème de la campagne nationale de sensibilisation menée à l'intention des populations du Tonkpi, notamment celle de la sous-préfecture de Zaoué. C'est une initiative du ministère des Eaux et Forêts à travers sa direction régionale du Tonkpi. Suivons le compte-rendu de Stéphane Adams, notre correspondant sur place.
Cette sensibilisation de masse a réuni experts et personnes ressources de la fonction publique pour montrer combien de fois les feux de brousse peuvent menacer la sécurité alimentaire, mais aussi la vie humaine. Le directeur régional des Eaux et Forêts de Mans, le colonel Tian Yapo Evariste.
Les chiffres récents que nous avons au niveau national déjà font état de 16 pertes en vie humaine. En termes de dégâts de culture pérenne, nous avons enregistré 37 000 hectares de plantations détruites. En termes de villages au plan national, nous avons également enregistré près de 94 habitats partis en fumée. Donc, c'est pour vous montrer combien de fois le feu de brousse crée des dégâts. Donc, il est important que chaque année, en parasaison, nous puissions sensibiliser nos parents à le fait de réduire un tant soit peu ces fléaux qui gangrènent non seulement notre économie, mais qui constituent des pertes en vie humaine. Un message, c'est de dire zéro feu de brousse.
Le sous-préfet de Sandou Soba, Djekou Léonard, assurant l'intérim de son collègue de Zaoué, a salué l'initiative en ces termes.
C'est une bonne action. Félicité le directeur régional des eaux et forêts du Tonkpi. Après cette cérémonie officielle de mise sur pied du comité, nous allons les jours à venir donner des instructions claires pour que, en cette période de saison sèche, ils puissent sensibiliser nos parents dans les foyers pour éviter les feux de brousse qui détruisent chaque année notre couvert forestier et qui nous exposent aux effets négatifs du changement climatique.
Au terme de la rencontre, les populations se sont engagées à mettre en pratique les consignes reçues. Stéphane Adams, de Zaoué, Radio de la Paix.
En page internationale, les Sénégalais sont appelés à se mobiliser ce vendredi contre le report de la présidentielle au cours d'une journée test du rapport de force entre le pouvoir du président Macky Sall, la société civile et l'opposition. Un nouveau collectif de groupes citoyens, des religieux et d'organisations professionnelles a demandé aux fidèles de se rendre à la grande prière musulmane hebdomadaire en tout début d'après-midi, vêtus de blanc et des couleurs nationales. Des messages circulant largement sur les réseaux sociaux appellent par ailleurs les Dakarois à manifester à partir de 15h GMT sur la vaste place de la nation à quelques kilomètres du centre de la capitale. Les initiateurs de cet appel ne sont pas identifiés, mais des candidats à la présidentielle initialement prévue le 25 février et reportés à la dernière minute au 15 décembre prochain, comme Anta Babacar Ngom et Tierno Alassane Sall, ont dit leur intention d'aller manifester. Dans la matinée, les professeurs ont donné le ton avec des débrayages dans les écoles, ont constaté des journalistes de l'AFP. Et puis, les États-Unis se sont dit vendredi profondément inquiets à la suite d'informations sur une tuerie ciblant des civils dans une localité de l'État régional de l'Amara, dans le nord-ouest de l'Éthiopie, où les forces fédérales éthiopiennes affrontent des milices locales. Ces informations n'ont pu être vérifiées dans l'immédiat, les autorités éthiopiennes refusant depuis le début du conflit l'an dernier l'accès à la région aux journalistes. Contacté par l'AFP, le service de communication du gouvernement n'a pas souhaité commenter dans l'immédiat. Sans transition, on passe à l'invité de la rédaction. L'invité de ce jour, pour refermer ce journal, est enseignant-chercheur à l'université Péléforogon Koulibaly de Korogo, spécialiste de droit administratif. Dr Landré Amoussou revient sur les tests régissant les rapports entre les maires et les gouverneurs de district. Il répond aux questions de Junior Cardin.
Docteur Landré Amoussou, bonjour.
Bonjour.
On a assisté il y a quelque temps à des démolitions d'espaces et de constructions dans Abidjan. Et
oui.
À cette occasion, il y a une certaine brouille entre le ministre-gouverneur et des maires. En la circonstance, qu'est-ce que les textes prévoient? Est-ce que les textes sont clairs?
Oui, alors en réalité, entre les différentes compétences qu'il y a entre les mairies et le ministre-gouverneur, ces deux autorités interviennent parfois dans le même domaine. Donc les textes qu'on a sous les yeux ne sont pas suffisamment précis. Il faut être honnête, ils ne sont pas suffisamment précis et les risques de confusion sont patents, effectivement, et la brouille qu'il y a eu entre les deux est la conséquence du manque de clarté des textes en la matière.
Ça veut dire qu'il y a problème pour encore longtemps?
Oui, mais le manque de clarté n'intervient pas seulement dans les textes relatifs aux collectivités territoriales. Sans faire du coq à l'âne, on a eu également le problème d'interprétation sur le troisième mandat. Vous étiez là. Le texte constitutionnel était vu pour certains comme suffisamment clair, alors que d'autres estimaient que ce n'était pas possible. Donc en droit, ça existe qu'un texte, à un moment donné, pose problème parce qu'il n'est pas suffisamment précis pour pouvoir partager les différents points de vue.
Mais quand les problèmes surviennent, comment donc pouvoir trouver des solutions? Parce que dans les relations entre les autorités, il y a régulièrement quelques problèmes.
Il faut saisir le juge. Le juge est juge de la légalité des textes. Donc c'est lui qui, lorsque l'affaire lui sera soumise, saura exactement donner une interprétation au texte. Sinon, au-delà de son interprétation, chacun va essayer de tirer le drap de son côté. C'est des conflits normalement qui se traitent devant le juge administratif.
Et pour le cas du plateau, pour être plus précis, on a parlé de l'espace Diakona où le député maire Jacques Ewo s'est plaint de l'engagement unilatéral du gouverneur. L'engagement unilatéral, c'était ça, hein, l'argumentaire du maire du plateau.
Oui, mais le maire ne peut pas exciper du fait qu'il possède dans la matière un texte qui prévoit qu'on doit le prévenir ou engager des discussions. C'est tout ça le manque de clarté, parce que chaque autorité estime dans son droit et il n'a pas à prévenir ou du moins entrer en discussion avec le maire. Alors que d'un point de vue des autorités, le ministre-gouverneur semble avoir une compétence beaucoup plus large que le maire du plateau. Donc en réalité, dans leur entendement, c'est le maire qui devait engager des discussions avec eux et non l'inverse. Parce que chacun, en fonction des textes qu'il a sous les yeux, estime être en droit d'agir de la sorte. Ça renvoie encore au manque de clarté parce qu'on a deux districts, on a encore les ministres-gouverneurs, et on a encore des maires. Effectivement, ils vont forcément se marcher sur les pieds. Il faut des textes suffisamment clairs et précis pour faciliter, je dirais, l'intervention de chaque autorité.
D'accord, mais en attendant, une vidéo avait circulé en boucle hein, où le maire de Yopougon promettait de réquisitionner la force publique pour faire barrage aux démolitions à GESCO. Cela est possible contre une décision du ministre-gouverneur?
Alors, là encore, c'est une mauvaise interprétation du texte. Le maire de Yopougon n'est pas habilité de requérir la force publique contre une décision émanant d'une autre autorité administrative. Je crois que ça fait un peu désordre. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Il y a visiblement des entorses à la légalité. Normalement, voilà comment ça se passe. Ils peuvent saisir le juge. C'est le juge qui peut ordonner à l'administration de attendre, patienter le temps que j'examine les textes en la matière. On ne fait pas un bras de fer sur le territoire de la République. Hein. Ce n'est pas comme ça les choses fonctionnent. Parce que l'autre autorité peut venir avec des policiers et vous avez des policiers. Non, ce n'est pas comme ça les choses fonctionnent.
Et dans le même sujet, le maire de Yopougon a également décidé de saisir le Conseil d'État pour dédommager les personnes impactées ayant des ACD et dont les maisons ont été détruites. Cette démarche peut-elle aboutir?
Il n'a pas qualité à agir. Ce n'est pas lui qui est impacté, c'est les personnes qui sont concernées qui saisissent le juge, pas le maire. Le maire ne peut pas s'auto-saisir, parce que pour saisir le juge administratif, il y a dans les pièces, il faut montrer qu'on a intérêt et on a qualité à agir. Le maire ne peut pas se substituer aux victimes. Ce n'est pas possible, cette voie ne peut pas aboutir, pas du tout.
Docteur Landry Amozou, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci beaucoup, à bientôt.
Spécialiste de droit administratif, docteur Landry Amozou, enseignant-chercheur à l'université Pélé-Forogon Koulibaly de Korogo, invité de la rédaction de ce jour, se prêtait aux questions de Junior Cardin. Cet entretien marque la fin de ce journal, le rappel de l'essentiel. Environnement, la contribution des banques centrales dans les stratégies de lutte contre les changements climatiques est la question essentielle qui a fait l'objet d'une conférence internationale organisée par la BCAO il y a quelques jours à Dakar, au Sénégal. Vous avez eu les précisions du gouverneur de la BCAO depuis Dakar. Lutte contre la pauvreté, le gouvernement ivoirien a distribué 9 milliards de francs CFA à 22 000 ménages vulnérables dans le cadre du projet Filet socio-productif à Bouaké en 3 ans. fin de ce 12 heures. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité sur Radio de la Paix, 15 heures. À présent, la revue de presse de Jean-Mylène Bitti.
Bonjour à tous. Finale Cannes 2023 le dimanche 11 février.